Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être ici, même s'il y a eu le retard ce matin. Moi, je suis Fabio D'Andrea et j'enseigne à Perugia, en Italie. Et je m'occupe depuis quelques années de sociologie de l'environnement parce que je l'ai rencontré souvent pendant des autres recherches sur le corps, sur Georg Simmel, qui est mon sociologue de référence, etc. J'ai parlé ici au CEAC, il y a de ça quelques ans, j'ai essayé de commencer à explorer la question imaginale de l'environnement, car je suis convaincu qu'il y a un côté de notre rapport avec l'environnement qui doit être approfondi et exploré mieux, parce que c'est là, à mon avis, une des sources de la problématique à laquelle nous sommes confrontés maintenant. Et j'avais parlé de l'expérience de l'espace, c'est-à-dire du fait que si nous cherchons à ne pas être rationnels, nous nous apercevons que notre sensation de l'espace est une sensation qui nous anéantit, quelque chose qui nous fait sentir petit, dépourvu de capacité d'action, etc. Et pendant que je conduisais cette recherche, j'ai constaté aussi que, au contraire de cette idée, notre représentation de la nature est aujourd'hui presque plastifiée, quelque chose qui peut nous rappeler un parc de divertissement, quelque chose qui est vendu d'un point de vue touristique comme seulement un plaisir, sans aucun risque, sans aucune difficulté, sans aucune possibilité de danger, disons comme ça. Et alors, je me suis demandé, mais moi, je me rappelle qu'il y a de ça un siècle, disons-nous, encore, la représentation que nous faisons de la nature était d'une nature méchante, d'un certain point de vue. Pour vous rappeler, pour vous expliquer ce que j'entends, j'ai porté avec moi quelques verses de Giacomo Leopardi, de la fleur du désert. Qu'à ces plages vienne celui qui a l'habitude d'exalter notre état et voit combien de notre genre prend soin l'aimante nature. Et sa puissance, il pourra la mesurer en estimant la semence humaine, que la sévère nourrice peut imprévisiblement d'un léger mouvement détruire en partie et d'un seul geste à peine plus léger soudainement anéantir en totalité. Alors, ma question est, comment ça se fait que d'un passé où l'homme s'est toujours trouvé à confronter des traits de la nature dangereux et risqueux, etc., on est maintenant arrivé à la voir comme quelque chose de tout à fait inoffensible? Et pour essayer de le comprendre, j'ai étudié un peu mieux une petite section de la réalité. En me refaisant à Weber, qu'il disait que la culture est une section finie de l'infinité dépourvue de sens, je me suis dit, alors peut-être si j'étudie une sous-section de cette culture, je pourrais arriver à comprendre quelque chose de plus. Et j'ai choisi comme cette section le jardin, c'est-à-dire l'évolution du jardin dans la culture occidentale, car je pense qu'il s'agit de quelque chose qui nous donne une idée de la dynamique qui nous a apporté au lieu où nous sommes aujourd'hui. Il faut, au Moyen-Âge, le jardin était un petit coin de sûreté au milieu d'un monde dangereux et plein de menaces. Il était entouré par des hauts remparts, il était une place où, je dirais confusionnelle, si je veux utiliser quelqu'une des catégories de Gilbert Durand. C'est-à-dire qu'il y avait là des plantes, des plantes à fruits, et on se baladait dans le jardin, on se rencontrait, c'est-à-dire qu'il y avait un tas d'activités que le rendait un des endroits plus accueillants de la maison, de la villa, du fort. Ensuite, le jardin reste entouré par des remparts, mais il se spécialise. C'est-à-dire que toutes les activités agricoles, tout ce qu'avait à faire aux arbres, aux plantes, etc., vient déplacer dans un autre endroit, et le jardin reste comme lieu de plaisir esthétique. Et avec le baroque, on voit comment cette idée du jardin vient se mélanger, c'est-à-dire, je dirais, à l'idée du développement de la culture. Parce que on voit comment, dans le jardin, l'homme exerce le pouvoir qu'il voudrait exercer sur le monde. C'est-à-dire, on trouve une folie géométrique, une folie symétrique qui porte le jardin à perdre tout aspect naturel en faveur d'une construction qui rend les plantes des cylindres, des prismes, etc., etc. Les promenades sont droites, il n'y a pas de chance, je dirais. Tout est extrêmement rigoureusement planifié. Même si, en dehors, le monde reste encore périlleux, je dirais, reste encore dangereux et dépourvu de sûreté. Alors, on voit que dans le jardin, l'homme donne à voir ce qu'il voudrait faire du reste du monde. Le jardin devient un microcosme dans lequel nous pouvons observer ce que les hommes voudraient obtenir du reste du monde qui, en même temps, est encore s'obstine à résister, je dirais. Mais la science et la technologie font des énormes progrès. Et alors, le jardin change. C'est-à-dire, l'homme se sent de plus en plus certain de ses capacités et de ses moyens. Et il arrive à penser qu'il peut laisser vivre un peu mieux la nature à l'intérieur du jardin. Et ça va coïncider avec la mode et la tendance du jardin à l'anglais. Le jardin à l'anglais où les traits artificiels de l'art du jardin vont lentement se perdre en faveur d'une tendance à transformer le jardin dans la nature. C'est-à-dire que nous voyons ici un mouvement contradictoriel qui part d'un endroit absolument domestique pour arriver à un endroit géométrique d'où on arrive à nouveau à un endroit naturel. Mais il s'agit maintenant non plus de la nature sauvage que terrifiaient nos ancêtres et nous forçaient à nous retirer à l'intérieur des remparts, mais d'une nature qui est devenue, par une sorte de miracle, je dirais, qui a été euphémisée dans son côté positif, en perdant tout aspect féral et sauvage qu'il pouvait avoir auparavant. Ça arrive même parce que le jardin devient aussi l'endroit, surtout encore au temps du baroque, l'endroit où les pressions sociales vont s'affaiblir. C'est-à-dire le code de l'étiquette qui était formidable dans le palais, dans la villa, laisse un peu plus libre les sujets au fur et à mesure qu'on arrive plus loin, qu'on se déplace du centre de la maison pour arriver jusqu'à la forêt, en passant par le jardin. Le jardin et la forêt, alors, vont acquérir des caractères, des traits qui sont positifs, des traits de liberté, des traits d'échaînement, je dirais, de passionnalité, qui sont tout à fait évacués par les autres endroits, par les autres lieux de la maison. Alors, à travers cette dynamique, le jardin se charge d'une série de valeurs positives qu'il n'avait pas auparavant, et se propose par la suite comme modèle de nature amicale, je dirais, de nature accueillante, de nature où on peut se balader, se aventurer sans risque et sans peur. Ça va coïncider avec la fin des remparts. Les remparts vont être substitués par un fossé qui s'appelle Ahin, parce qu'il est déguisé au milieu des champs, et lorsque tu arrives là, tu dois dire « Ahin, je suis surpris d'avoir trouvé cette limite du jardin », et à la fin, il n'y aura plus de limite. Absolument, on ne trouvera plus de limites. C'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire l'homme occidental, aussi la culture occidentale, est maintenant convaincu d'avoir soumis la nature, de pouvoir la fréquenter, la parcourir sans aucun obstacle et sans aucun danger, d'en être le maître. Ça a été a eu cependant des prix. C'est-à-dire que ce mouvement a coïncidé avec un mouvement parallèle qui nous entraînait de la corporéité. Il s'agit d'une expérience qui paradoxalement devient de moins en moins physique et de plus en plus esthétique et visuelle. Alors nous concevons maintenant la nature comme un spectacle. C'est là le grand problème et la grande question qu'il faut maintenant adresser. C'est-à-dire que nous pensons la nature comme spectacle esthétique, positif, amical, mais nous ne comprenons plus la possibilité que la nature a un côté obscur aussi, un côté sauvage. Et ça, je crois, se donne à voir chaque fois qu'on se trouve à avoir affaire à des tremblements de terre, des tsunamis, des événements qui nous signalent avec force que l'idée d'une nature non plus dangereuse est une idée qu'il faut revoir, reconsidérer. Même parce que toutes les politiques de support de l'environnement devraient se focaliser sur cette idée d'un support pratique et physique à l'environnement en tant que tel. Parce que si nous continuons à le considérer seulement comme un spectacle, comme quelque chose qu'on peut voir dans une vidéo, dans des photos, etc., notre rapport avec cette réalité sera tellement faible que nous n'arriverons jamais à faire des sacrifices ou à entreprendre des politiques qui pourraient nous sauver avec l'environnement. Je vous remercie.